السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں صحابہ کے ذکر میں حضرت عتبہ بن
Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Utba bin Ghazwan, un des compagnons de Badr. Je n'avais pas tout dit à son propos et je présenterai d'autres points à son sujet aujourd'hui. En l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui avait envoyé une expédition vers Nakhla avec à sa tête son cousin Abdullah bin Jahash. Utba bin Ghazwan faisait également partie de cette expédition. J'avais mentionné cette expédition dans le passé en évoquant un autre compagnon. J'en ferai mention de nouveau brièvement aujourd'hui. Dans son ouvrage « Sirat Khatamun Nabiyyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab relate que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a décidé de surveiller de plus près les mouvements des Quraychites afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles à temps et afin que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a rassemblé un groupe de 8 muhajirin. Par sagesse, il avait choisi des hommes appartenant à différentes tribus des Quraychites, de sorte qu'il fut plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Quraychites. Et le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a nommé son cousin paternel Abdullah bin Jahash au poste de commandant de ce détachement. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui n'avait même pas informé le commandant de ce détachement de l'endroit où il sera envoyé et le but de sa mission. Au moment de leur départ, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a remis une lettre scellée et il a déclaré « Cette lettre contient les instructions nécessaires à votre intention ». Et le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré « Ayant parcouru une distance de 2 jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions qui y sont stipulées. » Après avoir parcouru 2 jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du saint prophète Mohammed B.S.A. lui qui étaient les suivantes. Il a déclaré « Dirigez-vous vers la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf » et obtenez des informations sur les Quraychites et revenez avec les nouvelles à ce sujet. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné d'autres instructions au bas de la lettre. Il a déclaré que, après que vous ayez connu l'objectif de cette mission, si un de vos compagnons hésitait à vous accompagner et s'il souhaitait revenir à Médine, eh bien, il sera autorisé à le faire. Si un de vos compagnons hésitait à accomplir cette mission après qu'il ait compris l'objectif de cette mission, eh bien, il sera autorisé à retourner à Médine. C'est-à-dire qu'il ne sera pas forcé à accomplir cette mission. En tout cas, il aura la permission de retourner à Médine. Abdullah a lu les instructions à ses compagnons. Ces compagnons qui ont unanimement affirmé que nous nous présentons volontiers pour ce service. Ensuite, le détachement s'est rendu à Nakhla. Sa'd bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan ont perdu leur chameau en cours de route. Et ils se sont séparés de leurs compagnons pour aller chercher leur monture. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas été en mesure de rejoindre leurs compagnons. Et il ne restait que 6 personnes dans ce détachement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que Margolius, un orientaliste, a écrit que Sa'd bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan avaient abandonné leur chameau à dessein afin de rester en arrière. Cependant, chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure, déclare Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Un de ses compagnons était tombé en martyr entre les mains des mécréants à Bir Marouna. Et le deuxième compagnon avait participé dans diverses batailles très dangereuses pour conquérir en fin de compte l'Irak. Faire pareille supposition ne prouve que l'ineptie de Margolius. Et d'ailleurs, cet auteur, cet orientaliste, déclare que son livre est exempt de tout préjugé. En tout cas, à leur habitude, ces gens-là s'attaquent à l'islam et aux musulmans lorsqu'ils en ont l'occasion. Je me tourne de nouveau vers l'incident en question. Ainsi donc, ces quelques musulmans sont arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission qui était de s'informer sur les intentions et les mouvements des mécréants de la Mecque. Ils avaient l'intention de savoir si les mécréants avaient ourdi des complots contre les musulmans ou pas. Et afin de garder leur mission secrète, certains de ses compagnons se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs et afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Umra. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane des Quraychites est arrivée soudainement. Cette caravane se rendait de Taïf à la Mecque et les deux groupes se sont rencontrés. Les musulmans se sont consultés sur l'action à prendre. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements, mais pas pour lancer des attaques. Mais d'autre part, la guerre avec les Quraychites avait déjà commencé et les deux adversaires étaient face à face. Et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Quraychites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Ainsi, leur mission n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains de ces musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour du mois de Rajab, un des mois sacrés, au cours duquel les combats étaient interdits comme le stipulait l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charban avait déjà commencé. Et selon certains récits, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jamad al-Akhir. Et il avait un doute sur le fait de savoir si c'était un jour de Jamad al-Akhir ou de Rajab. D'autre part, la vallée de Nakhla était située sur la périphérie du Haram, de l'enceinte sacrée de la Kaaba. Et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane entrerait dans le Haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les six musulmans ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses membres. Par conséquent, ils ont lancé cette attaque et ils ont causé la mort d'un des koufars. Deux autres mécréants ont été capturés et le quatrième s'est échappé et les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Puisqu'un homme appartenant aux Quraychites s'était échappé et que la nouvelle de cette attaque allait arriver rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jarrah et ses compagnons sont rapidement rentrés à Médine avec le butin. Margolius affirme que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé cette expédition sciemment au cours du mois sacré, sachant que le Quraychite serait tout naturellement inattentif au cours de ce mois et que les musulmans pourraient aisément voler cette caravane. Cependant, toute personne douée de bon sens comprendra qu'on ne peut pas envoyer un tout petit détachement aussi loin pour s'attaquer à une caravane. Cela était impossible, en particulier étant donné que les quartiers généraux des ennemis étaient tout près et on sait de source sûre qu'ils avaient été envoyés en mission de renseignement et rien de plus. Et le saint prophète Mohammed lui était extrêmement fâché quand il a su à propos de l'attaque lancée par les musulmans. Et lorsqu'ils se sont présentés au saint prophète lui et qu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé, le saint prophète lui était très fâché et il a déclaré « Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré ». Et le saint prophète Mohammed lui a refusé de prendre sa part du butin. Abdullah et ses compagnons ont ressenti un remords et une honte extrême. Ils se sont dit qu'ils étaient ruinés étant donné qu'ils avaient attiré la colère de Dieu et de son prophète. Les autres compagnons les ont réprimandés pour leur action. D'autre part, les Quraychites ont également soulevé un tollé en disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mois sacré. Étant donné que celui qui avait été tué, qui se nommait Amr bin al-Hadrami, était un chef de clan, étant donné qu'il était aussi un allié d'Utba bin Rabi'a, un des chefs de la Mecque, cet événement a enflammé les Quraychites. Et ils se sont apprêtés à attaquer Médine. Cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et les mécréants. Et finalement, un verset du Saint-Coran a été révélé à ce propos. Et ce verset a soulagé les musulmans. Il est dit dans ce verset, Yas'alunaka an ash-shahri al-harami qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے C'est-à-dire, il t'interroge à propos du combat pendant le mois sacré. Dis-leur, se battre pendant le mois sacré est grave. Mais aux yeux d'Allah, il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah, de se montrer ingrats envers lui et d'empêcher les croyants de se rendre à la Sainte Mosquée et d'en expulser ses vrais ayants droit. Et la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. Aux musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi, s'ils peuvent le faire. Selon l'histoire, les chefs des Quraychites menaient leur propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés. Voire, ils étaient encore plus actifs dans leurs dessins maléfiques au cours de ces mois sacrés. Ils profitaient des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois pour mener ces campagnes. En outre, de manière éhontée, afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre des mois sacrés, une pratique qui était connue sous le nom de Nasi à l'époque. Et ils ont ainsi traité les musulmans. Et lors du traité de Hudaybiyah, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée des musulmans dans la région du Haram. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir sa tribu, ils se sont également battus contre eux dans la région même du Haram. Par conséquent, il était naturel que les musulmans trouvent réconfort dans cette réponse et les Quraychites se sont également calmés. Et pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs deux captifs. Cependant, étant donné que Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Razwa n'étaient pas revenus et que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, craignait qu'il ne soit entre les mains des Quraychites et que ces derniers ne les tuent. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Il a déclaré « Lorsque mes hommes reviendront à Médine sains et saufs, c'est là que je relâcherai les vôtres ». Par conséquent, quand ils sont retournés à Médine, le saint prophète, paix soit sur lui, a libéré les deux captifs contre rançon. Cependant, un des deux captifs était si profondément impressionné par les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et par la vérité des enseignements de l'islam lors de son séjour à Médine, qu'il a refusé de retourner à la Mecque et il a rejoint les serviteurs du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en lui prêtant allégeance. Et en fin de compte, il est tombé à martyr à Bir Marouna. Le fait qu'il ait accepté l'islam et le fait qu'il s'est sacrifié pour l'islam doit suffire pour répondre à l'objection de Morgulius. Mais ces gens-là rejettent ces faits. Utba bin Razwan avait participé à la bataille de Badr et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les deux esclaves d'Utba bin Razwan, ces deux esclaves affranchis, Khabbab et Saad, avaient également participé à la bataille de Badr. Utba bin Razwan faisait partie des archers émérites du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Omar avait envoyé Utba dans la région de Bassora afin de livrer combat contre les Perses dans la région d'Oubula. Omar lui a dit au moment du départ, par toi et tes compagnons jusqu'à ce que vous atteigniez la lisière de l'Empire arabe et celle des Ajams. Il a dit, pars avec les bénédictions d'Allah. Crains toujours Allah et sache que tu vas combattre un ennemi très aguerri. Il a ajouté, j'ai l'espoir qu'Allah t'aidera contre eux. Le calife Omar a ajouté, j'ai écrit à Rala bin Hadrami afin qu'il t'aide par l'entremise d'Al-Fajjah bin Harsama. Al-Fajjah, qui est un guerrier d'expérience et il maîtrise l'art de la guerre. Omar a ajouté, demande-lui conseil. Il invite les gens vers Allah. Accepte la conversion de celui qui t'écoute et impose la dizia sur celui qui ne se convertit pas. Il doit la payer de son propre chef et de sa main. Et utilise l'épée contre celui qui n'accepte pas ces conditions. C'est-à-dire qu'il faut livrer combat contre celui qui ne veut pas payer la dizia et qui ne souhaite pas non plus abandonner sa religion et se convertir à l'islam, mais qui insiste à combattre les musulmans. Ensuite, le calife Omar lui a dit, encourage les tribus arabes que tu croises en route à accomplir le djihad et sois vigilant concernant l'ennemi et crains Allah ton Seigneur. Le calife Omar a envoyé Utbah à Bassora avec 800 soldats. Il lui a envoyé des renforts par la suite. Utbah a remporté la victoire à Ubullah et il a tracé les frontières de la ville de Bassora. Il était le fondateur de cette ville et c'est lui qui l'avait peuplée. Quand Omar bin Khattab avait choisi Utbah comme gouverneur de Bassora, eh bien, ce dernier se trouvait au lieu-dit Khaliba. Khaliba, qui était une ancienne ville persane, dont le nom persan était Warshata Baz, Urshir. Les Arabes l'avaient nommé Khaliba et c'est là que s'était tenue la bataille de Jamal. Utbah a informé le calife Omar que les musulmans avaient besoin d'un lieu pour passer l'hiver et pour résider après leur retour de la bataille. Le calife Omar lui a demandé de se réunir dans un lieu où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. Il doit trouver un endroit où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. Sur ce, Utbah a choisi Bassora où les musulmans ont bâti des maisons faites de bambou. Utbah a aussi bâti une maison de bambou. Cela s'est fait en l'an 14 de l'Hégire. Et Utbah a construit la maison de l'émir tout près de la mosquée sur un terrain ouvert. Quand il partait au combat, ils démolissaient leurs maisons de bambou et rangeaient les bambous. Et quand ils retournaient, ils reconstruisaient de nouveau leurs maisons. Par la suite, les gens ont commencé à bâtir des maisons en dur dans la région. Utbah a ordonné à Mahjan bin Adra de jeter les fondations de la mosquée principale de Bassora, mosquée qu'il a bâtie avec du bambou. Ensuite, Utbah est parti accomplir le Hajj. Et il a choisi Mujashi bin Wasoud comme son remplaçant et il lui a demandé de camper dans la région de l'Euphrate et il avait choisi Mourira bin Shorba comme imam pour la prière. Utbah est parti voir le calife Omar pour l'informer qu'il souhaitait démissionner comme gouverneur de Bassora et il lui a demandé de nommer quelqu'un d'autre à sa place étant donné que la tâche lui était difficile. Omar n'a pas accepté sa démission. Sur ce, Utbah a prié. Selon un récit, il a prié, « Oh Allah, fais que je ne retourne pas de nouveau dans cette ville. » Et on raconte qu'il est tombé de sa monture et qu'il est décédé en l'an 17 de l'Hégire lorsqu'il retournait vers Bassora de la Mecque. Cet accident a eu lieu au lieu dit Madan bin Sulaym. Selon un autre récit, il est décédé en l'an 17 de l'Hégire au lieu dit Rabza. Selon un troisième récit divergent, il serait décédé à l'âge de 57 ans à Bassora en souffrant de son ventre. D'autres affirment qu'il est décédé en l'an 15 de l'Hégire. En tout cas, après son décès, son esclave, nommé Souaid, a pris ses affaires et les a présentées à Omar. Outba est décédé à l'âge de 57 ans. Il était grand de taille et il était beau. Khalid bin Umar Adawi relate, « Outba bin Ghazwan s'est adressé à nous. Il a loué Allah et ensuite il a déclaré, « Le monde annonce qu'il tire à sa fin. » Le monde a tourné son dos brusquement, c'est-à-dire que le jour dernier est proche. Il a ajouté, « Il ne reste pas grand-chose du monde à l'instar de ces quelques gouttes qu'on laisse au fond d'un récipient. Vous allez bientôt partir vers un monde éternel, c'est-à-dire la vie d'ici-bas est éphémère. Tentez de vous réformer. » On raconte qu'une pierre sera lancée du haut de la fosse de l'enfer et que cette pierre n'atteindra le fond qu'après 70 ans. Par Allah, cet enfer sera certainement rempli, c'est-à-dire que les pécheurs y seront jetés. Il a dit, « Profitez donc de la vie et accomplissez de bonnes œuvres. » Il a ajouté, « Il existe une distance de 40 ans entre les deux portes du paradis. Et un jour viendra lorsque le paradis sera rempli de gens. » Il a ajouté que nous étions sept en compagnie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, nous n'avions rien à manger sauf des feuilles d'arbre. C'est-à-dire qu'ils étaient passés par des moments très difficiles. Il ajoute, nous consommions des feuilles tant et si bien que le coin de nos bouches s'était blessé. J'ai trouvé une fois une couverture que j'ai divisée en deux. J'ai offert l'autre moitié à Sa'd bin Malik. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi se recouvrir. Il ajoute, j'ai utilisé cette moitié comme pagne pour m'entourer le corps et j'ai offert l'autre moitié à Sa'd. Cependant, aujourd'hui, on se lève le matin et l'on devient le gouverneur d'une ville. Je demande la protection à Allah contre toute expression de supériorité. Je suis tout petit aux yeux d'Allah et je prie pour rester humble. Étant donné que la situation a changé et que vous vivez dans l'aisance, vous avez davantage de soucis à vous faire. Il ajoute, toute naboua dans le passé a connu le déclin et cette naboua s'est transformée en royauté. Saisissez cette réalité et les dirigeants après nous doivent avoir de l'expérience. C'est-à-dire que les musulmans vont aussi sombrer dans le matérialisme et vous constaterez que mes paroles vont s'accomplir. Or, vous devez toujours vous consacrer à Dieu et à la spiritualité. Et c'est par ce faire que vous allez entrer au paradis. Le prochain compagnon de ce sermon se nomme Sa'd bin Ubada. Sa'd bin Ubada appartenait à la branche Banu Sarada de la tribu Khazraj. Le père de Sa'd se nommait Ubada bin Dulaym et sa mère se nommait Amra. Elle était la troisième fille de Mas'ud bin Qais. Elle avait aussi prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd bin Ubada était le cousin de Sa'd bin Zubayr Ash'ali, qui était aussi un compagnon de Badr. Sa'd bin Ubada avait deux épouses, la première se nommait Razia bint Sa'd, elle a donné naissance à Saïd Muhammad et Abdurrahman. Et la deuxième épouse se nommait Fouraira bint Ubaid, qui a donné naissance à Qais, Amama et Sadous. Mandous bint Ubada était la sœur de Sa'd bin Ubada. Elle avait aussi prêté allégeance au saint prophète Mohammed Pissos, lui avait embrassé l'islam. Sa'd bin Ubada avait aussi une autre sœur qui se nommait Layla bint Ubada. Elle avait aussi prêté allégeance au saint prophète Mohammed Pissos, lui avait embrassé l'islam. Sa'd bin Ubada était aussi connu comme Abu Thabit. Certains disaient qu'il se nommait Abu Qais, mais le premier récit est plus authentique, c'est-à-dire qu'il était connu comme Abu Thabit. Sa'd bin Ubada était le responsable de la tribu Khazraj. Il était un chef généreux et il portait le drapeau des Ansar lors de toutes les batailles. Il était quelqu'un d'important parmi les Ansar, quelqu'un d'influent. Et son peuple avait accepté son autorité. Sa'd bin Ubada savait déjà lire et écrire à l'époque de l'ignorance, tandis que très peu de gens savaient le faire à l'époque. Sa'd bin Ubada était aussi un très bon nageur et un très bon archer. Et ceux qui maîtrisaient ces arts étaient connus comme des kamils. À l'époque de l'ignorance, Sa'd bin Ubada et ses aïeux annoncer de leur forteresse qu'ils distribuent de la viande et de la graisse à qui en voudra. Et celui qui souhaite en profiter doit se rendre à la forteresse de Dulaim bin Haritha. Hisham bin Urwa raconte que son père a relaté. J'ai entendu Sa'd bin Ubada annoncer de sa forteresse qu'il offrait de la viande et de la graisse animale à celui qui en voudra. C'est-à-dire qu'il distribuait de la viande après avoir tué ses animaux. Et son fils aussi en faisait de même. Le père de Hisham bin Urwa ajoute, « Tout jeune, alors que je traversais dans Médine, j'ai croisé Abdullah bin Omar. » Abdullah bin Omar partait vers ses terres à Aliya, dans une vallée située à environ 8 milles de Médine, dans la direction du Nejd. Abdullah bin Omar m'a dit, « Oh, la jeune homme, viens ici. Est-ce que tu entends quelque voix de la forteresse de Sa'd bin Ubada ?» La forteresse était en effet proche. J'ai répondu, « Non, je n'entends rien. » Il a commenté, « Tu dis vrai. » Ainsi donc, après Sa'd bin Ubada, on ne faisait plus montre de la même générosité que la sienne. C'est pour cette raison qu'Abdullah bin Omar l'avait interrogé à ce propos. Nafé rapporte que lorsque Abdullah bin Omar est passé à côté de la forteresse de Sa'd bin Ubada, il a demandé « Ceci est la maison de ses aïeux. » Une fois par an, quelqu'un y annonçait « Celui qui souhaite manger de la viande et de la graisse doit se rendre à la maison de Dulaim. » Et lorsque ce dernier est décédé, Ubada faisait cette annonce et Sa'd en faisait de même après Ubada. Ensuite, Qais bin Sa'd en faisait de même. Et Qais était le plus généreux d'entre tous. Ainsi donc, selon ce récit, cette pratique a été perpétuée par ses enfants, mais cela n'a pas duré par la suite. Sa'd bin Ubada avait embrassé l'islam lors du deuxième serment d'Aqaba. Voici le récit tiré de la Sirat Khatamun Nabiyyin à ce propos. Au cours du mois d'Ul-Hijja de l'an 13 Nabawi, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de devenir des musulmans et qui s'étaient rendus à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussab bin Umair était également de la partie. Sa mère était en vie. Et elle était une idolâtre, mais l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a eu l'information que son fils était là, elle lui a envoyé ce message. « Viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. » Moussab a répondu, « Je n'ai pas encore rencontré le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. » Ainsi donc, il s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a informé le saint prophète, paix soit sur lui, sur des questions clés. Ensuite, il a visité sa mère. Sa mère était très en colère du fait que son fils n'était pas venu le voir en premier. Et elle s'est mise à pleurer et à se plaindre. Moussab a dit, « Mère, je vous dis quelque chose de merveilleux et qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord entre nous. » Elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» et Moussab a répondu doucement « Abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane et croyez dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Sa mère était une fervente idolâtre et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant « Je jure par les étoiles, je n'entrerai jamais dans votre religion. » Et elle a signalé à ses proches de capturer Moussab, mais celui-ci a pu s'échapper. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait été informé de la venue des Ansar par Moussab et de quelques-uns d'entre eux. Quelques-uns avaient rencontré individuellement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais à cette occasion, une réunion privée et collective était nécessaire. C'est pour cette raison qu'après les rites du Hajj, les dates du milieu du mois de Dhul-Hijja ont été fixées à cet effet. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans la même vallée que l'année dernière, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix et dans l'attention complète. Et le saint prophète a ordonné aux Ansar, « Ne venez pas en groupe, mais arrivez par paire dans la vallée à l'heure convenue. » Et ne réveillez pas ceux qui dorment et n'attendez pas ceux qui sont absents. Ainsi donc, à la date fixée, dans la nuit, quand environ un tiers de la nuit s'était écoulée, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a quitté son domicile. Il était accompagné de son oncle Abbas. Abbas qui était encore un idolâtre, mais qui aimait le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un des chefs de la famille des Hashim. Tous deux sont partis dans la vallée. Et les Ansar n'ont pas tardé à arriver par paire ou individuellement. Ils étaient 70 des tribus d'Aws et de Khazraj. Au tout début, Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré. Ô Khazraj, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vénéré et aimé au sein de sa famille. Et jusqu'à ce jour, sa famille a assuré sa protection. Et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais maintenant, Mohammed a l'intention de quitter votre pays et d'habiter chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous allez devoir le protéger et vous allez devoir faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêt pour cela, tant mieux. Sinon, donnez une réponse franche, car la franchise est meilleure. Al-Bara bin Marour, un homme âgé et influent de la tribu des Ansar, a déclaré « Ô Abbas, nous avons entendu ton discours. » Mais nous aimerions entendre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de sa propre langue bénie, afin qu'il puisse nous exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a récité quelques versets du Saint-Coran, et il a décrit brièvement les enseignements de l'islam. Et tout en faisant allusion aux droits d'Allah et aux droits de ses serviteurs, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitez et protégez vos proches. » Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a achevé son discours, selon la coutume de l'Arabie, Al-Bara bin Mahrour a pris la main du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans la sienne. Et il a déclaré, « Ô messager d'Allah, nous jurons par Allah qui vous a envoyé avec la vérité, que nous vous protégerons, car nous avons grandi à l'ombre des épées. » Il n'avait pas encore terminé sa phrase quand Abul Haythama bin Tayyihan a intervenu et il a déclaré, « Ô messager d'Allah, nous avons de longues relations avec les Juifs de Yathrab. En vous soutenant, nous allons briser nos relations avec eux. Nous avons peur que vous nous quittiez et retourniez dans votre pays natal quand Allah vous accordera la victoire. Et nous n'aurons plus d'alliés, ni ici, ni là-bas. » Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, s'est mis à rire et il a déclaré, « Non, non, cela n'arrivera jamais, car votre sang est le mien. Vos amis sont mes amis et vos ennemis sont mes ennemis. » Abbas bin Ubada al-Ansari a regardé ses compagnons et a déclaré, « Ô mon peuple, comprenez-vous le but de ce traité et de cette promesse ? Cela signifie que vous devez vous préparer à affronter tout le monde, peu importe qui c'est, et être prêt à offrir n'importe quel sacrifice. » Les Médinois ont demandé, « Oui, nous comprenons cela, mais ô messager d'Allah, que recevrons-nous en retour ?» Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu, « Vous recevrez le paradis d'Allah, qui est la plus grande de toutes ses récompenses. » Ils ont déclaré à l'unisson, « Nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez votre main. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a sorti sa main bénie, et ce groupe de 70 dévots s'est vendu à lui dans un pacte de défense. Le nom de cette allégeance est la seconde Bayra d'Aqaba. Quand la Bayra a eu lieu, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, « Moïse a nommé 12 chefs de son peuple. » 12 chefs qui ont agi comme superviseurs et comme protecteurs. Je souhaite également nommer 12 parmi vous. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi et ils seront responsables devant moi à l'égard de leur peuple. Proposez-moi les noms des hommes dignes parmi vous. Ainsi, 12 noms ont été proposés et ils ont été approuvés par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a nommé chacun d'entre eux comme superviseur d'une tribu, en expliquant leurs devoirs. Pour certaines tribus, le saint prophète, paix soit sur lui, a nommé 2 chefs. Après la nomination de ces derniers, Abbas bin Abdel Moutlib, l'oncle du saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a demandé aux Ansar d'être vigilants en raison de la surveillance des espions des Quraychites. Il ne fallait pas qu'on sache à propos de ce pacte, car cela causera des ennuis. Il était en train de prodiguer ses conseils lorsqu'un espion qui se cachait là-haut, en haut de la vallée, a annoncé, « Ô Quraychite, Muzammam, qu'Allah nous en préserve, et ses apostats ont conclu un pacte contre vous. » Ceci a troublé tout le monde, mais le saint prophète, paix soit sur lui, était tout à fait serein. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, leur a demandé de partir individuellement ou en groupe de 2. Abbas bin Nadla Ansari a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, nous n'avons peur de personne. Si vous nous donnez l'ordre, eh bien, nous attaquerons les Quraychites le lendemain matin. » Et nous leur ferons goûter le fruit de leur persécution. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, « Non, je n'ai pas encore reçu la permission à ce propos. Retournez silencieusement dans vos tentes. » Ainsi, ils sont partis en groupe de 2, à pas furtifs. Et le saint prophète, paix soit sur lui, est retourné à la Mecque avec son oncle Abbas. Étant donné que les Quraychites ont entendu à propos de la réunion secrète, ils sont partis rencontrer les gens de Yathrab le lendemain matin et ils leur ont dit, « Nos relations datent de longtemps et nous ne souhaitons pas qu'elles se brisent. Cependant, nous avons entendu que vous avez conclu un pacte hier soir avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. qu'en est-il vraiment? Étant donné que les polythéistes parmi les Aws et les Khazraj ignoraient tout de cette affaire, ils en étaient fort surpris et ils ont nié le tout. Abdullah bin Rumay bin Saloul, qui était devenu plus tard le chef des hypocrites, était aussi présent dans ce groupe. Il a répondu, « Il n'y a rien de tel. Il est impossible que les gens de Yathrab accomplissent quelque chose d'important à mon insu. » Ceci a dissipé le doute des Qurayshites et ils sont retournés. Après quelque temps, les Ansar sont retournés vers Yathrab. Mais après leur départ, les Qurayshites ont su qu'ils avaient conclu un pacte avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sur ce, certains d'entre eux les ont poursuivis. La caravane était partie, mais Sa'd bin Ubada était resté en arrière pour quelque raison. Ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé sur le sol rocailleux de la Mecque. Et ils l'ont tiré par les cheveux. Jubair bin Mutim et Harith bin Harb, qui connaissaient Sa'd bin Ubada, l'ont libéré d'entre les mains de ses tortionnaires. Dans mon prochain sermon, je mentionnerai d'autres faits à propos de Sa'd bin Ubada, Inch'Allah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ